Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Europe Soir, deux heures d'infos, de débats et d'échanges. Et ce soir, on va donc suivre ensemble les annonces très attendues du Premier ministre Jean Castex. Pourra-t-on circuler à Noël? Y aura-t-il un couvre-feu plus sévère que prévu? Et les théâtres et cinémas pourront-ils rouvrir, comme l'avait dit le président de la République, à la date du 15 décembre? Et la réponse pourrait être non, vu que le nombre de contaminations ne semble plus reculer. 18h20, on en parlera donc avec l'épidémiologiste Antoine Flahaut, directeur de l'Institut de Santé à la Faculté de Médecine de l'Université de Genève. 18h30, les annonces de Jean Castex, on suivra donc ensemble ce qui nous attend pour les fêtes de fin d'année, et on en débattra. 19h15, le Club des idées, grand débat ce soir sur la stratégie du gouvernement face à la crainte d'une troisième vague. Peut-on cette fois éviter les erreurs du premier déconfinement ou est-il déjà trop tard? On en parlera avec nos invités, le professeur Gilbert Deray, l'économiste Mathieu Plane et Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris. Il sera également avec nous. D'abord le journal avec vous Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
L'exécutif face au dilemme des fêtes de fin d'année. À quoi ressemblera Noël et le réveillon de la Saint-Sylvestre? Comment évolueront les restrictions sanitaires?
Et pourrons-nous partir en vacances évidemment et retourner au musée, au cinéma ou au théâtre?
On sera fixé d'ici quelques minutes. Jusqu'au tout dernier moment, en tout cas, le président et ses équipes ont pesé le pour et le contre.
L'exécutif dans le viseur des sénateurs, en particulier le numéro 2 du ministère de la Santé.
Jérôme Salomon soupçonné d'être en partie responsable de la pénurie de masques au printemps dernier.
Des questions autour des potentiels effets secondaires liés au vaccin. On tentera de démêler ce soir le vrai du faux.
La Hongrie et la Pologne, enfin raisonnables. L'Europe devrait pouvoir débloquer son plan de relance. Il manque encore le feu vert, mais c'est en très bonne voie, nous dira Isabelle Horry.
La jeune Mila, cette adolescente qui avait été menacée de mort et de viol après avoir critiqué l'islam sur les réseaux sociaux, exclue de son nouveau lycée après avoir révélé le nom de ce nouvel établissement.
Et puis on vous présentera le cuisinier de l'année, récompensé par le guide culinaire Goemio. La Bourse de Paris a terminé ce soir à l'équilibre, plus 0,05% à 5549 points.
Le temps aussi est à l'équilibre. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Un temps pluvieux demain.
Oui, avec une nouvelle perturbation qui arrive, une perturbation pluvieuse et neigeuse demain. Nous avons toujours un risque d'avalanche sur les Pyrénées, un risque de crue sur les Landes. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et comme un air de déjà-vu, un Premier ministre qui s'apprête à dire aux Français ce qu'ils auront le droit de faire ou de ne pas faire dans les prochaines semaines.
Jean-Rémy Baudot, vous êtes à Matignon où Jean Castex va donc une nouvelle fois monter au front avec des bonnes et des mauvaises nouvelles, évidemment Jean-Rémy.
Oui, Julien, je crains de devoir vous annoncer de mauvaises nouvelles, car effectivement, depuis plusieurs jours, l'exécutif prépare les esprits à un déconfinement plus restrictif que prévu, et c'est ce qui se profile. Selon les informations d'Europe 1, dans quelques instants, Jean Castex va annoncer la prolongation de 3 semaines de la fermeture des établissements accueillant du public. Ça veut dire que les théâtres, les cinémas resteront fermés 3 semaines de plus. Réouverture désormais envisagée le 7 janvier. Une mesure qui concerne aussi les musées, mais aussi les enceintes sportives, les casinos et même les zoos. Les conditions ne sont pas réunies pour une réouverture, dit-on, au sommet de l'État. Autre point important, le couvre-feu. Il sera bien mis en place le 15 décembre, mais à partir de 20h. Et là aussi, c'est plus restrictif que prévu. Ce point a évidemment un impact sur la vie économique. Et puis, il nous reste évidemment la dernière grosse annonce de la soirée, la plus attendue, la question des fêtes. Il y aura une dérogation pour le couvre-feu le soir de Noël, mais pas pour le réveillon. Pas de grosses fêtes au 31 décembre. On sait que le gouvernement craint beaucoup la Saint-Sylvestre, source de soirées et de potentiels clusters. Voilà donc les 3 principales annonces que le Premier ministre dira d'ici quelques instants. Les arbitrages ont été délicats. Ils ont été finalisés dans les toutes dernières heures.
Oui, justement, depuis plusieurs jours, la situation sanitaire est scrutée, bien sûr, de très près par le président et ses équipes. Emmanuel Macron sait que ces annonces sont très attendues et les arbitrages ont donc été, on l'imagine, très très compliqués.
Compliqué, oui, car le sujet n'est pas que sanitaire, il est très politique. En arrivant aujourd'hui à Bruxelles, Emmanuel Macron a rappelé que l'objectif était que l'épidémie ne reparte pas. Mais évidemment, ce soir, les annonces contredisent un peu les perspectives qu'il avait lui-même données fin novembre. L'exécutif, bien conscient que les Français sont aussi de plus en plus lassés par les contraintes, et preuve que la politique, c'est aussi du très concret. Sachez que ces dernières heures, une bagarre a eu lieu sur la question des déplacements entre les régions. Mais interdire aux Français de rejoindre leur famille pour Noël semblait difficilement acceptable par la population et techniquement compliqué à mettre en place. Mais on vous rappelle évidemment donc ces informations Europe 1. 3 semaines de fermeture de plus pour les établissements accueillant du public. Tout ça est repoussé donc au 7 janvier.
Merci Jean-Rémy Baudot en direct, avenue de Ségur. Et si ces décisions sont si difficiles à prendre, c'est aussi parce que l'exécutif veut éviter qu'on lui reproche de ne pas avoir fait les choses correctement ou de ne pas avoir anticipé.
Oui, comme ça a été le cas pour les masques. Souvenez-vous, sur ce sujet, Adrien Beck, la commission d'enquête du Sénat est très sévère avec le numéro 2 du ministère de la Santé. On le connaît tous, le professeur Jérôme Salomon.
Ah oui, très clairement, s'il y a un responsable au fiasco des masques, c'est Jérôme Salomon, à en croire les sénateurs. Fin 2018, la France a 613 millions de masques, sauf qu'ils sont en réalité périmés. Pour les remplacer, le directeur de la Santé n'en commande que 50 millions. Sans prévenir la ministre Agnès Buzyn. À la suite de cela, c'est lui encore qui fait modifier un rapport d'experts préconisant un stock massif de masques. Le résultat, c'est la pénurie du mois de mars, les masques rationnés et même du mensonge par omission. Ce sont les termes très forts de Catherine Deroche, la rapporteure de la commission.
Le gouvernement a sciemment dissimulé la pénurie de masques. Il avait en effet une parfaite connaissance de la situation dramatique et de sa responsabilité en la matière. Par exemple, dès le 13 mars, la Direction générale de la Santé a reçu une note qui indiquait noir sur blanc que la France était confrontée à une pénurie d'équipements de protection individuelle.
Voilà, cacophonie au sommet de l'État, impréparation. Autant dire que les 456 pages du rapport sénatorial ne sont pas tendres. Une personne tout de même semble un peu épargnée, c'est Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, qui a, on dit les sénateurs, sonné l'alerte très tôt, sans pour autant être entendu.
Merci Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Autre sujet sensible ce soir Isabelle, celui des vaccins.
Oui, et c'est l'info du jour. Les résultats complets des essais cliniques du vaccin développé par Pfizer et BioNTech viennent d'être publiés dans la plus sérieuse revue médicale américaine qui confirme une efficacité de 95%.
Oui, alors qu'un comité d'experts américains indépendants a commencé à examiner en public les données de ce vaccin afin de recommander ou non son autorisation. Un exercice de transparence inédit dans le monde qui ouvrira la voie aux vaccinations aux États-Unis et cela dès la semaine prochaine.
Oui, on voit que les choses avancent donc, hein, puisque les Britanniques se sont fait vacciner dès cette semaine. Mais quid de possibles effets secondaires? Alors, on entend les inquiétudes de certains spécialistes. D'autres, au contraire, sont rassurants. Clairement, il y a débat. Alors, qui croire, Anne Le Gall?
Eh bien, si on en croit les résultats publiés justement dans le New England Journal of Medicine, il y a quelques effets indésirables, comme des douleurs dans le bras au point d'injection. Il peut aussi y avoir de la fatigue ou des maux de tête. Mais d'après cet article validé par un comité scientifique indépendant, aucun problème grave de sécurité n'a été relevé suite aux essais auprès de 44 000 personnes. Alors c'est vrai que le professeur Eric Combe, infectiologue, s'est inquiété dans la presse de ces effets secondaires chez des personnes jeunes. Mais attention à ne pas dramatiser, explique le professeur Jean-Daniel Lelièvre. Il est chef du service de maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Il faut toujours comparer ces données au groupe placebo.
Ce type d'effets indésirables surviennent également chez les gens qui ont reçu un placebo. C'est toujours très difficile, bah voilà, quand vous avez une fatigue, de savoir si c'est lié ou pas au traitement qu'on a pu vous donner, d'où l'importance d'avoir des groupes placebo. Actuellement, le dossier est en train d'être examiné par les autorités de l'Union européenne, de la France. Eh ben, on va statuer avec l'ensemble des données qui sont disponibles, mais il n'y a pas de raison à ce stade d'être démesurément inquiet, comme semble l'être le professeur Combe.
Et par ailleurs, poursuit cet expert, la fièvre, la fatigue, les maux de tête sont des effets très habituels après une vaccination. Cela fait partie des réactions attendues, car le système immunitaire peut créer un peu d'inflammation. Ça fait partie des signes qui montrent que l'organisme se défend. Et jusqu'ici, ces effets secondaires n'ont pas posé de problème pour la validation de ce vaccin Pfizer par les autorités canadiennes, britanniques et aussi saoudiennes depuis aujourd'hui.
Voilà, c'est clair comme ça. Merci Anne Le Gall.
Direction à présent Bruxelles, où se tient aujourd'hui un sommet crucial pour le plan de relance européen post-Covid.
Oui, depuis des semaines, vous savez que la Hongrie et la Pologne prenaient en otage les 1 800 milliards d'euros de ce plan et du futur budget de l'Europe, ce qui rendait fous leurs partenaires européens. Et bien, ces dernières heures, un compromis semble avoir été trouvé. On attend encore quand même le feu vert des 27. Et pendant ce temps-là, Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante à Bruxelles, pendant ce temps-là, les deux premiers ministres, pas van, hein.
Mais oui, les deux premiers ministres se sont exprimés devant la presse à leur arrivée en anglais. C'est très inhabituel. Ils sont visiblement contents. À écouter le Hongrois Viktor Orban, on a du mal à imaginer que c'est lui qui paralyse tout ce qui a été construit ces derniers mois.
Ce qui est important, ce n'est pas de se battre seulement pour la victoire de l'Union européenne, mais aussi pour la victoire du bon sens. C'est évident qu'à un moment où nos nations et des millions de gens souffrent de la pandémie et de ses conséquences économiques, nous devons être raisonnables.
Voilà, la Hongrie et la Pologne ont obtenu des clarifications sur le mécanisme de contrôle de l'état de droit. Il n'a pas été changé, mais son utilisation est cadrée et retardée. Il permettra de vérifier que les fonds européens sont utilisés de façon juste et impartiale par les capitales. Varsovie et Budapest se sentent visés injustement pour le Premier ministre polonais.
Il faut éviter les décisions arbitraires et politiques. Aujourd'hui, nous craignons d'être injustement attaqués. Mais demain, peut-être le Portugal, la France ou d'autres seront attaqués aussi.
Les pays du nord de l'Europe sont maintenant en train d'examiner le compromis négocié par l'Allemagne sous toutes les coutures et on attend toujours la fumée blanche.
Merci Isabelle Horry, vous suivez ça bien sûr en direct de Bruxelles. Notez que les négociateurs du Parlement européen sont parvenus aujourd'hui à un accord sur un retrait en une heure des contenus à caractère terroriste sur Internet.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h11, la suite du journal avec Isabelle Millet. Vous vous souvenez sans doute de la jeune Mila, harcelée, menacée de mort après avoir critiqué l'islam sur Internet. Elle avait même dû changer d'établissement scolaire.
Accueillie depuis dans le plus grand secret, dans un lycée militaire, elle vient d'en être renvoyée. Théo Manval et son père, dans une lettre incendiaire, dénoncent la lâcheté de l'institution militaire.
Oui, il se dit, je cite, « effondré de tant de démissions et de lâcheté ». Alors que s'est-il passé ? Au moment de l'accueillir et au vu des menaces sérieuses, vous l'avez dit, reçu par la jeune fille, ce lycée militaire de Grenoble lui impose, dans un accord qu'elle signe, de renoncer, je cite, à toute expression publique, plus de messages sur les réseaux sociaux et surtout ne pas donner le nom de l'établissement, là aussi pour ne pas qu'il devienne une cible. Condition visiblement trop difficile à respecter pour une ado de 17 ans. Dans une conversation sur Facebook, elle demande à un ami s'il est toujours scolarisé sur place, citant le nom de l'école. Pour l'encadrement que nous avons joint, la sécurité des 750 élèves dont Mila n'est plus garantie. Elle n'est pas renvoyée mais doit poursuivre sa scolarité à distance de chez elle, ce que son père refuse. Il écrit donc cette lettre au colonel et proviseur dénonçant, je cite, le manque de courage de l'armée après celui de l'éducation nationale, refusant d'accueillir sa fille. Il s'indigne qu'une victime du harcèlement soit, selon ses mots, condamnée à se taire à jamais. Il mentionne le destin tragique du professeur Samuel Paty. Aujourd'hui, Mila, dit-il, n'est plus scolarisée. L'armée assure continuer de travailler avec le ministère de l'Éducation pour lui trouver une solution.
Merci beaucoup Théo Manval.
Contre de l'incendiaire de la rue Mirta à Paris.
La rue Mira, oui, 20 ans de prison, incendie volontaire qui avait fait 8 morts. Thibaut Garagnon, 24 ans, n'a jamais eu un mot de compassion pour les victimes. Il encourait la perpétuité.
Fin des recherches pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin dans les Ardennes.
Depuis lundi, un important dispositif de recherche avait été déployé dans une ancienne propriété de Michel Fourniret, le château de Sautou, près de Charleville-Mézières. Les fouilles n'ont finalement rien donné.
L'explosion au port de Beyrouth, il y a 4 mois, qui avait fait plus de 200 morts et 6500 blessés. Le Premier ministre libanais et 3 ex-ministres inculpés aujourd'hui.
Mais ce sont les premières inculpations d'hommes politiques dans cette affaire.
La cuisine, une passion française, Isabelle. Surtout en ces temps de confinement, il n'y a jamais eu autant de monde derrière les fourneaux.
Avec plus ou moins de succès, il faut le reconnaître. Rien ne remplacera jamais les chefs, les vrais, des chefs récompensés, vous le savez, chaque année par le prestigieux guide Goemio.
Et ça y est, on connaît le palmarès 2021 depuis quelques minutes.
Et le cuisinier de l'année s'appelle Christophe Hay, ce chef doublement étoilé à son restaurant à Montlivaud, c'est dans le Loir-et-Cher.
C'est une bouffée d'air, c'est aussi le fait de se dire que toute cette année où on a remonté les manches et on a essayé de se réinventer, repenser notre cuisine, parce que finalement aujourd'hui on dresse dans des boîtes et que c'est un peu frustrant. Et finalement on s'aperçoit que voilà, les guides sont là, ils nous soutiennent. Ouais.
Il se trouve qu'on a le guide, oui, jusque-là.
on peut le regarder. Là on a les cuisiniers de l'année, on voit que ça a démarré depuis... Hop. Depuis 81 en fait, ça a démarré avec Georges Blanc.
Et quand on tourne la page,
c'est moi en pleine page en bord de Loire.
Qu'est-ce que ça vous fait de regarder ça?
C'est énorme, je pense qu'aujourd'hui, tous autant qu'on est, on rêve un jour d'avoir notre nom dans ces cuisiniers de l'année. Et voilà, il y aura mon nom la prochaine fois dans ce palmarès qui va être ancré, donc c'est superbe.
Le cuisinier de l'année Christophe est doublement étoilé. Si vous avez envie de vous remonter le moral avec un menu à emporter, réalisé rien que pour vous par lui, eh bien Pierre Bulot nous signale que la formule entrée plat dessert est à 34 euros. Encore faut-il habiter dans le Loir-et-Cher.
Ben oui, c'est pas loin de chez moi ça. Moi j'ai grandi à Blois, c'est à quelques kilomètres. On ira lui rendre visite évidemment. Et cette dernière annonce est donc confirmée. Le Premier ministre l'annonce en ce moment même. Les lieux publics resteront fermés. Les lieux publics accueillant du public resteront donc fermés 3 semaines de plus. Nous l'évoquions en début de journal, c'est donc confirmé. La météo avec Anissa qui nous a rejoint. Et toujours des vigilances, Anissa, dans le sud-ouest.
Oui, vigilance pour les Landes Julien, toujours une vigilance pour crues. Et puis les Pyrénées-Atlantiques sont concernées aussi par cette vigilance orange. Attention, sur les Pyrénées-Atlantiques, c'est le risque d'avalanche qui est élevé. Alors demain, nous avons une nouvelle perturbation qui arrive par l'Atlantique dès le début de la journée, avec dans le sud-ouest des pluies soutenues. Au fil des heures, la perturbation va avancer assez rapidement vers l'est. À la mi-journée, des Hauts-de-France jusqu'à l'Occitanie, le temps est pluvieux avec le vent du sud qui se lève sur le massif central. La perturbation arrive sur les frontières de l'est dans l'après-midi. De l'Alsace à la Provence, la journée est arrosée. Demain après-midi, aucune région ne sera au sec. C'est de la pluie pour tout le monde,
bon,
demain.
Au moins, c'est clair.
De la Bretagne au Pays Basque, donc là, sur la façade atlantique. Attention au vent d'ouest qui souffle sur les côtes. Les températures. Alors, il y a toujours une bonne nouvelle, vous le savez, en météo. Eh bien, nous avons un redout. Alors, toujours des gelées matinales. Moins 4 à Annecy, moins 3 à Belfort, moins 1 à Lyon, 4 à Paris, 6 à Rennes, 8 à Bordeaux, 10 à Brest. Et dans l'après-midi,
oui,
c'est un petit peu plus doux. 5 à Strasbourg, 9 à Saint-Etienne, 11 à Paris, 12 à Limoges, 14 à Perpignan et 16 à Mont-de-Marsan.
Merci Anissa, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h19, il est épidémiologiste, directeur de l'Institut de Santé Globale, la Faculté de Médecine de l'Université de Genève. Bonsoir Antoine Flahaut.
Bonsoir.
Merci infiniment d'être en direct avec nous, alors que Jean Castex énumère les nouvelles mesures sanitaires qui vont toucher les Français pour les 3 semaines à venir. On a, c'est vrai, beaucoup de questions à vous poser ce soir. D'abord, question simple, Monsieur Flahaut, comment se fait-il que le niveau de contamination ne baisse plus ? Est-ce que c'est la réouverture des commerces ? Est-ce que c'est la conséquence d'un relâchement général ? Comment vous l'expliquez, ce plateau sur lequel on est accroché en ce moment ?
Alors d'abord, ce plateau, on l'observe un peu partout en Europe. Alors, il y a l'Irlande, qui est peut-être le champion de tous les pays de l'Union européenne, parce que vraiment, elle a réussi à arriver dans sa zone de sécurité. Mais tous les autres pays sont plus ou moins à l'arrêt. Alors l'Italie continue à descendre, la Belgique également, mais la France, en effet, est vraiment à l'arrêt aujourd'hui. Pourquoi tous les pays européens, à cette période-là, ont freiné dans leur descente ? Il y a plusieurs explications possibles.
Oui.
On entre dans l'hiver et peut-être que la pression sur le virus, sur les virus respiratoires de façon générale, peut jouer un certain rôle.
La température, le froid, ça joue aussi ?
Alors, en fait, l'hiver, c'est le froid et l'humidité, vous avez raison, mais c'est aussi des comportements qui changent. On ferme beaucoup plus nos habitats, on ventile moins, et donc on est dans des univers peut-être un peu plus confinés, moins ventilés,
donc
et ça peut favoriser la propagation.
C'est pas tant lié aux températures qu'aux comportements qui accompagnent cette baisse de température, si je vous suis bien, Antoine Flahaut.
Oui, c'est pas totalement élucidé, y compris pour des virus comme celui de la grippe. C'est plutôt des hypothèses, mais on pense que c'est une combinaison des deux, de la température, de l'humidité, mais aussi sans doute de nos comportements qui changent pendant l'hiver par rapport à l'été. Alors, une autre hypothèse qui tient bien la corde, ce serait que la réouverture des écoles après les vacances de la Toussaint, et qui ont été les congés de pommes de terre en Allemagne ou en Suisse, ou le même type de congés un peu partout à la même période en Europe, peut avoir joué un rôle. Parce qu'en fait, les enfants, et les Anglais l'ont bien montré, puis d'autres études le confirment, les enfants, notamment les collégiens, les lycéens, sont des grands vecteurs de l'épidémie, n'avaient pas été tellement testés au départ et donc on s'en était pas rendu compte, mais quand ils rentrent chez eux, ils transmettent à leur tour aux familles et il y a une multiplication des contaminations qui
Alors,
se fait à cause de cela.
Antoine Flahaut, encore un mot sur les chiffres et puis on va passer aux annonces du Premier ministre Jean Castex. Le gouvernement avait fixé, on s'en souvient, un seuil à 5000 contaminations jour. On est aujourd'hui à plus de 14000, évidemment c'est beaucoup. Est-ce que ce seuil de 5000 d'abord est encore atteignable à court terme ?
Alors en tout cas, il ne sera pas atteignable pour le 15 décembre. En tout cas, tous nos modèles prédisent que ce sera au-dessus. Nous prédisons que la France sera autour de 11 000 à cette période-là. Et puis si elle reste avec ce taux de reproduction qui est maintenant à 1, on est à l'horizontale, on ne redescend plus.
Oui.
Donc il faut absolument redescendre parce que c'était, à mon avis, un objectif très important pour reprendre vraiment la main sur cette vague épidémique.
Alors justement, Antoine Antoine Flahault. Le gouvernement vous a visiblement entendu. En tout cas, il a regardé ses prévisions et ses chiffres. En lieu et place d'une deuxième phase de déconfinement que nous avait promis le président de la République Emmanuel Macron le 15 décembre, c'est plutôt un tour de vis en réalité qui s'annonce, puisque le Premier ministre vient d'annoncer la fermeture pour 3 semaines supplémentaires des lieux qui accueillent du public, au moins jusqu'au 4 janvier, dit-il. Un couvre-feu beaucoup plus sévère, dit-il, à partir de 20h, qui rentrera en vigueur le 15 décembre, avec des contrôles renforcés et des dérogations limitées. Et puis, pas de réveillon du 31 décembre, en tout cas, pas d'exception à ce couvre-feu pour le 31 décembre. Est-ce que tout cela vous paraît cohérent ?
Alors, il ne m'appartient pas de juger les décisions politiques elles-mêmes, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on diminue encore nos interactions pendant une période, pendant cette période hivernale. Oui. Et il faut vraiment qu'on reprenne le contrôle. Il faut qu'on diminue, et la diminution de nos interactions, c'est la façon de le faire. Bien. Il est vrai que le 31 décembre est un peu inquiétant parce que c'est justement une semaine après les fêtes de Noël, et toutes les personnes qui s'infecteront potentiellement dans, malgré tout, le brassage familial, risque de contaminer des personnes au moment du 31 décembre. Donc c'est vraiment pas très agréable comme annonce, oui. Mais je pense que c'est
clair.
Mais c'est
judicieux, c'est cohérent par rapport aux prévisions. Bien. Antoine Flahault, il y a une information qui vient de me parvenir à l'instant, qui est essentielle. Avis à tous les gens qui nous écoutent, hein, ça concerne beaucoup, beaucoup de gens. C'était l'une des grandes questions. Le Premier ministre confirme donc que nous aurons le droit de nous déplacer partout en France à partir du 15 décembre. Est-ce que, là encore, pardon de vous mettre dans cette situation de juger parti, mais est-ce que ça vous paraît cohérent par rapport à ce qui a été annoncé précédemment ?
Je pense que à partir du moment où on a quand même beaucoup baissé la circulation du virus, on peut se permettre de lever quelques-uns des freins sur l'épidémie. Il faut savoir que si on lève les freins, le risque, évidemment, c'est que ça redémarre. Oui. Les vacances de Noël vont apporter un intérêt important contre la circulation du virus, parce que les enfants à l'école, comme je l'ai dit au tout début, sont des propagateurs de l'épidémie. Donc mettre les enfants en vacances, fermer les écoles quelque part, a un effet très puissant, un frein très puissant.
C'est intéressant ce que vous dites, Antoine Flahault, parce que vous êtes en train de dire, nous, on voit le verre à moitié vide, on se dit, on va laisser les gens circuler, donc ça va faire de la mobilité, ça va faire des rassemblements dans les gares, dans les trains, peut-être dans des endroits à l'extérieur, certes, mais quand même, les gens vont se rencontrer. Et vous, vous dites à l'inverse, la contrepartie, c'est que les écoles vont fermer. Donc les foyers potentiels de contamination vont fermer, et donc les contaminations peuvent baisser. En fait, c'est ça.
Oui, je pense que ça va avoir un frein très puissant, beaucoup plus puissant qu'on peut même l'imaginer. On a pu le démontrer très clairement sur beaucoup d'épidémies de grippe, et ce sera probablement la même chose aujourd'hui pour ces épidémies de coronavirus. Donc la circulation, il va falloir faire très attention, et il va falloir, je pense, redoubler d'attention et véritablement limiter au maximum nos interactions. Mais je crois que tous les Français l'ont bien compris et que les gens vont vouloir absolument protéger leurs aïeux notamment et les personnes à risque, mais cette fermeture des écoles devrait avoir un effet très puissant contre cette épidémie.
Antoine Flahault, un dernier mot sur cette polémique qui est en train de naître sur les effets secondaires supposés du vaccin de Pfizer-BioNTech, car la Grande-Bretagne a débuté les vaccinations et indique qu'il est déconseillé en cas d'importante allergie. En réalité, c'est la technologie évidemment ARN messager qui suscite une forme de méfiance de la part, par exemple, de l'éminent professeur Combe, qui dit même « Je préfère me faire vacciner par le produit chinois que par Pfizer ». Entre-temps, une revue britannique de renom a publié et a adoubé d'une certaine manière les bons résultats du vaccin Pfizer. Que répondez-vous à tout cela, vous ?
Bon, je suis assez heureux qu'on puisse avoir ce type de débat. Ça prouve c'est des débats de riches. Oui, vous rendez compte, après quelques mois, on a plusieurs vaccins sur l'étagère et on peut se permettre de dire je préférerais celui-là que celui-ci. C'est une très grande chance que nous avons. Donc oui, je pense qu'on peut entendre que des gens puissent avoir des réticences. Bon, je pense que des gens très à risque, les gens très âgés, auront moins de réticences vis-à-vis des effets indésirables à long terme quant aux deux effets indésirables d'allergies graves qui ont été rapportées. Oui, oui. D'abord, il faut bien voir que sur 30 000, il y a eu 70 000 personnes qui ont eu dans les essais cliniques des vaccins.
Mais pour être clair, Antoine Flahault, il nous reste quelques secondes. C'est un bon vaccin, le vaccin Pfizer-BioNTech ?
Mais c'est un bon vaccin en termes d'efficacité, ça c'est très clair, il est très efficace. Pour les effets indésirables à long terme, il va falloir du long terme. Donc on le saura évidemment avec un peu plus de recul. Bien. Et c'est vrai que pour l'instant, il reste des inconnus sur la sécurité à long terme de ce vaccin.
Message entendu. Merci infiniment Antoine Flahaut d'avoir commenté et nous avoir donné quelques lueurs d'espoir pour les semaines qui viennent. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le rappel des titres, 18h31 avec Isabelle Millet.
Et ces annonces donc très attendues. Ce soir, les musées, cinémas, théâtres et tous les lieux qui accueillent du public ne rouvriront pas mardi prochain. Ils resteront fermés 3 semaines supplémentaires jusqu'au 4 janvier, annonce du Premier ministre. En revanche, les Français pourront de nouveau se déplacer partout en France sans avoir besoin d'attestation à partir du 15 décembre. Mais attention, un couvre-feu sera instauré et il sera durci puisqu'il débutera à 20h et non à 21h. 20h tous les soirs, sauf le 24 décembre, c'est le seul jour. On pourra donc fêter Noël en famille, mais toujours en comité restreint. En revanche, le 31 décembre, ce couvre-feu sera appliqué afin d'éviter les regroupements festifs potentiellement dangereux. Précision pour tous ceux qui, pour des raisons impératives, auront besoin de se déplacer entre 20h et 6h du matin. Alors là, il faudra une attestation. Dans l'actualité également, la grippe aviaire qui se propage dans les Landes. Un deuxième élevage de canards contaminé. Tous les animaux ont été abattus. Israël et le Maroc acceptent de normaliser leurs relations dans le cadre d'un accord négocié avec l'aide des États-Unis. C'est en tout cas ce qu'annonce ce soir Donald Trump. La Commission nationale de l'informatique et des libertés inflige des amendes de 100 millions et 35 millions d'euros à Google et Amazon pour non-respect de la législation sur les cookies. Elle ne demande pas l'accord des utilisateurs avant d'installer ses traceurs publicitaires.
Voilà, c'était le rappel des titres, des bonnes nouvelles avec Isabelle Millet. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. Et pour ne rien arranger, voilà que la météo s'y met aussi. Deux départements toujours en vigilance orange.
C'est la soirée, oui, nous avons les Landes toujours en vigilance orange pour crue et les Pyrénées-Atlantiques pour risque d'avalanche avec le redoux de demain et les fortes pluies prévues aussi demain sur les Pyrénées. La situation est propice aux avalanches. Soyez extrêmement prudents. Demain, nous avons une perturbation pluvieuse qui arrive de l'Atlantique, qui va toucher tout le monde. Dans le sud-ouest, les pluies seront soutenues. Aucune région ne sera au sec demain. Donc, parapluie pour tout le monde. Côté température, allez, quand même, une bonne nouvelle au milieu de tout ça. Des valeurs toujours négatives le matin avec moins 4 à Annecy, moins 3 à Grenoble, moins 2 à Colmar, 1 à Besançon, 4 à Paris et 8 à Lorient. Attention, elle arrive, la bonne nouvelle. Soyez patients. Le redout demain après-midi avec 5 à 16 degrés, 5 à Strasbourg, 11 à Paris, ça grimpe, 16 à Mont-de-Marsan pour la maximale.
J'ai envie de vous dire, s'il pleut, ça me fait une belle jambe qui est un redout. Merci.
Écoutez,
Anissa,
je fais ce que je peux. Hein, Julien.
Merci Anissa, à tout à l'heure, 19h. Un peu de bonne humeur, ça fait du bien aussi.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h34, le débat des grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés Michel Cotta. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir.
Et
bonsoir
Guillaume Tabar, éditorialiste au Figaro, qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Alors cette fois, ça y est, nous y sommes. Le gouvernement a dévoilé donc sa stratégie anti-Covid pour les fêtes de fin d'année. On attendait les annonces depuis plusieurs jours maintenant. La deuxième phase de déconfinement que nous avait présenté le président de la République Emmanuel Macron est déjà compromise. Et donc, une fois de plus, le gouvernement ajuste ses annonces et notamment la fermeture des lieux qui peuvent accompagner du public pendant encore 3 semaines.
Pendant la journée, à partir du 15 décembre, l'attestation ne sera plus obligatoire pour se déplacer. Les déplacements entre régions seront autorisés. En revanche, les déplacements seront interdits de 20h à 6h du matin. Cela signifie qu'à 20h, chacun devra rester chez soi, sauf exception. Le couvre-feu ne s'appliquera pas à la nuit de Noël, la nuit du 24 au 25 décembre, mais les déplacements et rassemblements devront évidemment s'effectuer dans le respect des règles sanitaires.
Voilà, c'était la voix évidemment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était également présent avec Olivier Véran, le ministre de la Santé, autour donc du Premier ministre Jean Castex. Alors, que penser de ces mesures, Michel Cotta ? Le président de la République avait établi ce fameux seuil à 5000 contaminations. On est aujourd'hui à 14 000. Est-ce que tout ça est cohérent par rapport à ce qui était attendu ?
Oui, malheureusement, à partir du moment où on fixe un seuil qui est 3 fois dépassé, on s'attend à ce qu'il y ait des conséquences.
Mais est-ce qu'il ne s'est pas enfermé un peu trop vite dans ce seuil de 5000,
oui,
le président de la République il a un peu sorti ce chiffre de son chapeau. Hein.
Non, ça correspond au nombre de 50 sur oui. 100 000, de 50, donc ça correspond au nombre. Mais c'est vrai que c'était inutile de sortir un chiffre. Ça ne sert jamais à rien de sortir un chiffre. C'est comme Pour les élections, on dit « je vais faire 23%, si on fait 21%, on a perdu ». Là, c'était sans doute inutile, le chiffre de contamination. Oui, mais comme les chiffres de contamination d'aujourd'hui, les hospitalisations de dans deux semaines.
Oui, mais en même temps, le nombre d'entrées en réanimation continue de baisser. Seuil a été atteint. Il avait dit pas plus de 3000. On est à 3000. Donc, on estime qu'arrivé le 15 décembre, on sera passé en dessous des 3000. Il y a un élément que j'évoquais tout à l'heure, c'est la fermeture des lieux publics. C'est les cinémas, les salles de spectacle, les théâtres. Donc, c'est un coup dur, évidemment, pour le monde de la culture. 3 semaines de fermeture supplémentaire, alors qu'on leur avait dit que les ouvertures, c'était pour le 15 décembre. C'est reporté au 4 décembre. Est-ce que ça repose, Michaël Darmon, sur un élément factuel, tangible et raisonnable, j'allais dire, ou est-ce que c'est pour susciter un effet psychologique et montrer aux Français qu'on n'est pas sorti de l'auberge et qu'il faut continuer à être vigilant?
En fait, c'est fondé sur une analyse qui a ces deux aspects. La première, c'est que le virus est un virus social, c'est un virus de l'interaction. Et dès qu'on a de l'interaction sociale, eh bien, il se remet à circuler. Donc là, il y a une décision qui consiste à dire toute la démarche qui consiste à aller vers ces lieux, même si eux mettent des protocoles sanitaires, eh bien, permet au virus de circuler, ne serait-ce que la perspective de ce rassemblement et de se retrouver dans cet endroit, même s'il est bien organisé. C'est ça la première des choses. Et puis la conséquence, eh bien, c'est que justement, de ce fait, le principe qui consiste à dire il faut vivre avec le virus est impossible à tenir.
C'est l'équation qu'essaye de mettre en place le gouvernement. Guillaume Tabar nous a retrouvés, on l'entendra dans un instant, Guillaume.
C'est ce que les Français comprennent. On ne peut pas vivre avec le virus.
Restez avec nous, 18h38, on parlera aussi de l'aspect communication, de l'aspect politique et de la question de l'acceptabilité qui a visiblement fait pencher le gouvernement dans la balance. Vous verrez dans quel sens. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h39, la suite du débat des grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés donc Michel Cotta, Michaël Darmon du service politique d'Europe 1 et Guillaume Tabar du Figaro. Guillaume, d'abord, votre réaction à ces annonces, sont-elles équilibrées, sont-elles cohérentes par rapport à ce qui était envisagé?
Écoutez, je crois que le pire dans ce genre de circonstances, c'est de contester des décisions qui, par définition, sont difficiles. Difficile à prendre. Je crois que ce qui est terrible surtout, c'est que même si ça a son corps défendant, le gouvernement montre que l'engagement d'une parole, et d'une parole au sommet, puisque c'est Emmanuel Macron qui avait fixé cet échange du 15 décembre, ne peut pas être tenu, ne peut pas être respecté.
Alors c'est pas la première fois dans cette crise sanitaire, mais là le délai est relativement court entre la promesse et la non-application.
Bien sûr, mais c'est pas la première fois, mais c'est quand même le contraste est quand même troublant par rapport au premier confinement. Souvenez-vous, Emmanuel Macron qui avait dit « ce sera le 11 mai ». Olivier Véran et d'autres disaient « oh là là, le 11 mai, on n'est pas sûr ». Souvenez-vous, le professeur Delphessis disait « non, mais il ne faut même pas rouvrir les écoles ». Et Emmanuel Macron avait tenu bon en disant « je me suis engagé sur le 11 mai, ce sera le 11 mai ». Et ça avait été le 11 mai. Là, de la même manière, Emmanuel Macron avait dit « ce sera le 15 décembre », avec d'ailleurs beaucoup de précautions, en disant que ce ne serait pas un déconfinement d'un seul coup, ce serait progressif, en plusieurs temps, etc. On l'avait bien compris. Mais cet engagement du 15 décembre, eh bien, il ne peut pas le tenir. Ce qui veut dire que désormais, lorsqu'il va prendre d'autres engagements, y compris en termes de calendrier, qui pourra le croire? Bien, d'autant plus, et ça on va peut-être en parler après, d'autant plus qu'il y a d'autres éléments qui en ce moment viennent troubler fortement la crédibilité de la parole publique
C'est le rapport sénatorial contre le professeur Jérôme Salomon. On rappelle rapidement les mesures annoncées à l'instant par Jean Castex, la mise en place d'un couvre-feu à partir du 15 décembre 20h avec des contrôles renforcés, des dérogations qui seront moins larges que jusqu'à présent, la liberté de circulation pendant les vacances scolaires inter-région, c'est-à-dire partout en France pour tous les Français. Ça c'est quand même, pardon de le dire, mais la bonne nouvelle, voilà, parce que les Français avaient envie de se retrouver pendant les vacances. Et d'ailleurs, Michaël Darmon, c'est peut-être là aussi que ça a pesé dans la balance, je le disais avant la pause. Il se dit dans l'entourage du chef de l'État que le paramètre de l'acceptabilité et le paramètre politique sont devenus presque aussi importants que le paramètre sanitaire.
Ça fait plus de 24 heures que Emmanuel Macron explique autour de lui en disant « je ne serai pas le père Fouettard il va falloir quand même que je puisse prendre une décision ». Qui puisse être accepté positivement et qui donne quand même
très chaud, d'ailleurs,
un petit peu d'espoir. Ça a été très tendu
dans l'entourage du président.
Ça a été très tendu parce qu'effectivement, depuis hier soir, d'ailleurs, ça s'est même terminé par un dîner entre Jean Castex et Emmanuel Macron, tellement les ministres n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Parce qu'en fait, derrière la somme des décisions qui a été présentée à l'instant, tout ça a un poids politique très important. Vous savez, la soirée du 24 a été autorisée. Ça veut dire que ce fameux, entre guillemets, sondage de la dinde qui fait qu'on se retrouve de toutes les régions, de toutes les générations, de toutes les familles, et qu'au bout de 10 minutes, on se met à parler politique, va avoir très certainement son effet, parce que j'imagine qu'il y aura un sujet de conversation à table, même si elle est réduite ce soir-là.
Mais normalement, si on respecte les six convives, on pourra échapper aux vieil oncle, aux cousins.
Et si les enfants sont là, c'est vrai.
Non, il n'empêche qu'il y a un sujet de conversation qui sera très certainement au menu.
Et puis, il y a une annonce importante qui a été faite. Si Noël est autorisé sans couvre-feu pour la nuit du 24 décembre, ça n'est pas le cas pour le réveillon du jour de l'an.
Nous rétablirons un couvre-feu dès le 15 décembre, mais il sera durci par rapport à ce que nous avions annoncé. D'une part, il débutera dès 20h. D'autre part, il sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées. Ce couvre-feu concernera aussi, contrairement à ce que nous avions envisagé initialement, le réveillon du 31 décembre. Ce réveillon est en effet un moment traditionnellement festif, mais il concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique.
Voilà, pas de réveillon du 31 décembre. Alors, est-ce que ça donnera lieu à des regroupements et des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui font des entorses aux règles,
qui iront
chez les uns et chez les autres et qui passeront la nuit, parce que c'est une possibilité, ça aussi, Michel
Cotard.
Tout à
fait, mais en gros quand même, on se disait tout à l'heure...
Surtout que généralement, les réveillons du 31, ça peut se finir au petit matin parfois.
Voilà, et peut-être qu'ils se mettront, qu'ils se mettront ensemble à 8h du soir, avant 8h, et qu'ils resteront jusqu'à 6h du matin. Personne n'interdit ça, à condition qu'il y ait peut-être 6 personnes ou... c'était inévitable. C'est effectivement le moment.
Tout a été fait pour sauver Noël, quand même. Voilà. C'était l'opération Sauver Noël.
C'était le moment de plus grand risque, c'était le moment de plus grand risque, le réveillon du 31, parce que c'est celui des jeunes, c'est celui... ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais je me disais que, justement, dans la façon dont Emmanuel Macron ne voulait pas être... le Père Noël, il n'est pas le Père Noël, ça c'est sûr, et deux, moi je suis sûre qu'il a été traumatisé par la sortie trop rapide du confinement de mai dernier, où quand même ce ministre lui avait dit le contraire. Donc maintenant, il a tendance à être plus prudent, lorsqu'il annonce 5000 lits.
Oui, sur la différence de traitement entre Noël et le jour de l'an, il faut quand même rappeler aussi que ces deux dates ne sont pas uniquement un prétexte à se retrouver ou à faire la fête ensemble. Noël, c'est avant tout une célébration religieuse. Les chrétiens fêtent Noël dans la nuit du 24 décembre. Les juifs ont fêté Hanouka ce samedi. Voilà, ce ne sont pas des fêtes movibles au gré des... Si l'idée, c'est juste on se retrouve entre amis, entre familles pour faire la fête, que ce soit le 31 décembre ou le 8 janvier, sincèrement, ça ne fait pas une grande différence. Là, il y avait aussi une autre raison qui était davantage religieuse et sur laquelle s'est greffé aussi tout un environnement familial qui devait être plus légitimement respecté.
Alors on va se retrouver dans quelques secondes, 18h45, toujours avec les grandes voix, et puis on va évoquer l'autre information de la journée, c'est ce rapport sénatorial contre le professeur Salomon qui jette aussi le discrédit sur la gestion de crise de l'exécutif. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du débat des grandes voix du jeudi avec toujours Michel Cotta, Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1, Guillaume Tabar du journal Le Figaro. Et on va maintenant évoquer donc ce rapport accablant du Sénat pour le directeur général de la Santé, le professeur Jérôme Salomon. Après 6 mois de travaux, plus de 100 heures d'audition, un rapport de 450 pages qui pointe les manquements de l'État et du gouvernement, et notamment sur la question des masques. Écoutez Catherine Deroche, la présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat.
Il avait en effet une parfaite connaissance de la situation dramatique et de sa responsabilité en la matière. Par exemple, dès le 13 mars, la Direction générale de la Santé a reçu donc avant le confinement une note qui indiquait noir sur blanc que la France était confrontée à une pénurie d'équipements de protection individuelle.
Alors, pour être tout à fait précis, ce rapport sénatorial étrille la gestion de masques par le directeur général de la Santé, Salomon, qui est donc le numéro 2 du ministère de la Santé. D'abord, sur les stocks stratégiques de masques, on apprend qu'ils s'établissaient à 754 millions d'unités fin 2017 et qu'ils n'en contenaient plus que 100 millions fin 2019. Et il impute cette décision, ce rapport, directement à Jérôme Salomon, qui a décidé en 2018 de ne pas renouveler le stock et sans en alerter la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn. Guillaume Tabar, votre réaction ?
Oui, une erreur de gestion incontestable qu'il est facile de critiquer aujourd'hui, maintenant que l'on est dans cette crise-là. Il faut quand même se rappeler ça. Mais moi, ce qui me paraît vraiment très grave avec cet épisode, c'est que tout le discours public sur les masques a été calé là-dessus. Et il y a eu une double faute. La double faute, d'abord, c'était de s'appuyer entièrement sur les experts scientifiques. Souvenez-vous quand on dit au ministre, à Emmanuel Macron, Olivier Véran, mais vous-même, vous avez dit que les masques ne servaient à rien, du moins en population générale. Ils disent, ah mais ce qu'on a dit, c'est ce que nous disaient les autorités scientifiques de l'époque. Donc si, dans un contexte où on est déjà noyé par les fake news, par le complotisme, etc., si on ne peut même pas s'appuyer sur...
Vous avez raison, Guillaume Tabar, mais la commande, elle porte en 2018. Donc c'est avant les prémices du Covid-19. Et moi, je vous pose la question très simplement, est-ce que ça n'est pas la toute-puissance, l'illustration de la toute-puissance de la bureaucratie française, un haut fonctionnaire qui prend une décision sans en alerter la ministre de la Santé?
Moi, je pense, je vais vous dire, je ne connais pas du tout Jérôme Salomon, mais je me suis dit quand même qu'après l'histoire des masques, il aurait dû être remplacé. Je me suis dit ça, c'est peut-être injuste. Il a pris cette décision, très difficile pour lui maintenant.
A fait un tweet, il dit dans une démocratie fonctionnelle, Olivier Véran et Jérôme Salomon auraient dû démissionner à la suite
Olivier
de
Véran, c'est autre chose, est entré sur une phase différente. Tandis que Jérôme Salomon, il est depuis très très longtemps. Moi, je crois que la prudence pour justement la parole politique, la parole scientifique, même et politique, aurait été de le remplacer au moment à la sortie du confinement. Alors c'est dur, ce que je dis. J'ai l'air d'être sévère un peu. Bon, mais je crois que pour la compréhension des gens et pour la confiance des gens, ça aurait été préférable.
Michel Darmon.
Et oui, sauf qu'on est en 5e République, qu'il y a un autre mode de fonctionnement, que vraisemblablement Jérôme Salomon partira à un moment donné, très certainement quand la crise du Covid s'estompera, ou peut-être un petit peu avant. Vraisemblablement, ça sera une sorte de sanction par le haut, c'est-à-dire qu'il récupérera pour service rendu un poste, vraisemblablement. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit dans les couloirs du ministère de la Santé aujourd'hui.
Il y a une deuxième affaire dans l'affaire. Oui, c'est que absolument. Les sénateurs le soupçonnent aussi d'avoir fait pression pour modifier un rapport d'expertise recommandant l'achat d'un milliard de masques. Autrement dit, il s'est couvert.
Alors là, effectivement, il reviendra aux autorités d'établir effectivement la véracité de ce qui est dit, mais enfin, c'est apparemment un travail assez précis. Ce qui est intéressant, c'est que le message envoyé par les sénateurs, c'est que pendant l'épidémie, la politique ne s'arrête pas. Bien évidemment, ils ont trouvé le maillon faible, ils ont trouvé le clou sur lequel ils vont taper, de manière à mettre en difficulté aussi l'exécutif, parce qu'on est évidemment à l'orée de la préparation de la campagne présidentielle et qu'il faut arriver à la campagne présidentielle qui sera sous le haut patronage du Covid. C'est-à-dire qu'on ne parlera que de ça, des opposants au président.
Mais ça pose la question quand même de la confiance envers l'exécutif et le gouvernement et l'action publique. Quand vous voyez aujourd'hui que seuls 39% des Français font confiance au gouvernement sur la crise sanitaire, qu'il y ait une défiance à hauteur de 55% des Français contre la vaccination, ça n'arrange pas les affaires de la confiance qu'on donne dans la parole publique, Michel.
Comme vous savez, le manque de confiance dans la vaccination, c'est typiquement français et très typiquement latin. Ça vient des pays latins par rapport aux pays, au contraire, comme l'Angleterre, qui sont des pays plus scientifiques.
Vous comprenez que ça abîme cette confiance entre le citoyen et le politique.
Ça annule toutes les confiances, en principe, avec tous les régimes tels qu'ils fonctionnent en Europe. Donc, c'est ça qui est embêtant. C'est que, le nôtre, oui, mais l'ensemble, je trouve que l'ensemble du continent a été branlé par cette façon de gouverner.
D'ailleurs, il y a quand même une faute qui est pointée du doigt par un rapport parlementaire, ça n'est pas rien.
La faute, si, c'est vrai. Si vraiment on a étouffé un rapport pour être plus tranquille, ça c'est sûr que c'est une faute.
Guillaume Tabar.
Et faute qui a débouché sur un mensonge, parce que tout le discours de dire on n'a pas besoin de masque, c'est parce qu'on savait, alors qui est le on, je ne sais pas jusqu'où c'était le on, mais à tout le moins Jérôme Salomon c'était le cas, il faudra se poser la question sur Olivier Véran et sur le gouvernement, mais on savait qu'il n'y avait pas le nombre de masques suffisant, et on a voulu nous faire croire que pas du tout, il n'y avait aucune pénurie. Même Olivier Véran avait dit si aujourd'hui on a besoin d'un tribé, on pourra le faire. C'était pas vrai. Simplement, on n'en avait pas. Et on a inventé une explication pour ça. Comment après s'étonner effectivement que les gens doutent et invoquer le sérieux de la science par rapport au complotisme, ça ne tient pas lorsque c'est la science elle-même qui ment.
Voilà. Michel Darmon.
Les scientifiques eux-mêmes qui mentent.
Avec cette affaire, Madame Macron va se retrouver un peu frappé en retour de boomerang par cet état profond qu'il avait lui-même stigmatisé en disant voilà cette espèce de monstre bureaucratique anonyme qui prend des décisions à l'encontre de toutes les concertations. Là, on est en plein dedans et effectivement, on voit bien que quelque part, ça met en lumière la culture, une facette de la culture politique.
Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés ce soir le débat des grandes voix du jeudi.
Europe 1, Julien Bugier.
18h55, vous restez avec nous. On va revenir évidemment sur les annonces à retenir. Elles sont importantes du Premier ministre Jean Castex, juste après la pub. Et puis le Club des idées avec nos invités. On va en débattre aussi de ces mesures. À tout de suite.